Tech News, le média du lycée Émile Pétavin.
Mais alors, il y aurait des fortunes à gagner en exploitant les régions polaires ? Cette étonnante prédiction de Jules Verne, formulée en 1889, semble aujourd'hui prendre une résonance toute particulière. Car désormais, les tensions politiques et économiques se multiplient autour des ressources minières du Groenland. Ce territoire, longtemps perçu comme lointain et inaccessible, attire aujourd'hui de plus en plus d'intérêts stratégiques et économiques. En effet, la fonte des glaciers alimente les débats et semble raviver les intérêts internationaux autour de cette île arctique. Vous êtes avec la classe de Terminale Générale au micro aujourd'hui. Ensemble, nous allons tenter de démêler le vrai du faux. Le réchauffement climatique et la fonte des glaces rendent-ils réellement les ressources minières du Groenland plus accessibles ? Paul, peux-tu nous éclairer sur ce qui se passe aujourd'hui au Groenland et sur les raisons de cet intérêt croissant ?
En effet, on entend énormément parler de Trump et de sa volonté d'acquisition du Groenland depuis maintenant plusieurs semaines. Selon lui, il faut sécuriser les ressources minières rendues accessibles avec la fonte des glaces. Sauf que voilà, la fonte des glaces rend-elle ces ressources vraiment plus accessibles ? Y a-t-il comme titre l'exemplaire du 1 du 21 janvier, un Eldorado blanc ? Petit tour d'horizon de la situation avec Nina.
En effet, le président Trump s'intéresse grandement au Groenland, mais pourquoi ? Il affirme avoir besoin de ce territoire pour la sécurité qu'il juge nécessaire pour son pays, un prétexte pour simplement poser son drapeau sur un pays voisin. Les enjeux énergétiques sont souvent présentés comme une motivation essentielle de Donald Trump. En réalité, l'Express du 16 janvier compare la situation actuelle à une partie de Monopoly. Le Groenland serait donc une case de Monopoly qui vaut cher, tout comme la rue de la paix dans le jeu que l'on connaît tous. À l'échelle du territoire autonome, l'industrie minière bénéficie d'un accueil très favorable de la population qui y voit une opportunité d'emploi et de dynamisme.
Mais quand on parle de minerais, de quoi parle-t-on exactement ?
Nous parlons de terres rares, de nickel, de cobalt et de cuivre. En effet, le sous-sol du Groenland semble intéressant car le territoire possède entre 12 et 25% des ressources minières mondiales. Selon une étude de 2023 extraite de l'hebdomadaire Le 1, le territoire recèle 2/3 des matières premières critiques listées par la Commission européenne. D'autre part, à cause du réchauffement climatique qui est 4 fois plus accentué sur les pôles que sur le reste de la planète, de nouvelles routes maritimes se créent et l'accès aux gisements pourrait être facilité d'après l'Express du 16 janvier 2026. De plus, 80% de ces ressources se trouvent sur les côtes, nous explique un article du Monde datant du 18 juillet 2022. Toutefois, comme le met en lumière Pia Bayeul, anthropologue, dans un entretien avec Hélène Seng pour le 1, exploiter un Arctique coûte extrêmement cher. Il faut un équipement adapté, du matériel, des constructions capables de s'adapter au milieu. Cela explique pourquoi l'intérêt des secteurs privés dans le minier semble faible, puisque comme le précise le journal Le Monde du 16 janvier, seule une entreprise américaine dispose d'un permis d'exploitation. Ces projets d'exploitation hypothétiques sont donc alimentés par la spéculation sur des filons miniers potentiellement importants et rentables.
Merci Nina. Donc, si la fonte des glaces rend l'Inland 6 du Groenland plus accessible, il n'en demeure pas moins que l'exploitation des ressources du Groenland reste très difficile. Les conditions climatiques extrêmes et les coûts d'infrastructure élevés freinent fortement les projets miniers. Ainsi, malgré son potentiel stratégique, ces richesses demeurent pour l'instant largement inexploitées. Toutefois, il est essentiel de mettre un terme à la fonte des glaces pour éviter que le scénario esquissé par Donald Trump ne devienne réalité. Mais quand on parle de fonte des glaces, Baptiste, de quoi parle-t-on exactement ?
Pour comprendre ce phénomène, il faut d'abord parler de l'albédo. Je vais commencer par un exemple du quotidien. Quand il fait chaud dehors, vous préférez vous habiller en couleur claire ou en couleur sombre ? La Terre, chauffée en permanence par le Soleil, subit le même sort. L'albédo correspond à la capacité d'une surface à renvoyer les rayons du soleil vers l'espace. Ce rôle est joué par les surfaces très claires, comme la neige ou la banquise, qui réfléchissent beaucoup la lumière du soleil. A l'inverse, les surfaces plus sombres, comme l'océan ou la terre, absorbent davantage la chaleur provenant des rayons lumineux. Cela implique que moins il y a de glace pour renvoyer les rayons du soleil, plus la chaleur stockée dans les rayons du soleil vient augmenter la température de la Terre. Lorsque la glace fond, elle laisse apparaître l'océan ou la roche qui sont plus sombres. Ces surfaces absorbent alors plus de rayons du soleil, ce qui réchauffe davantage la planète et provoque encore plus de fonte des glaces. On parle ici de rétroaction positive, c'est comme un cercle vicieux. Cela signifie qu'un phénomène s'amplifie lui-même en se répétant sans arrêt. La glace fond, ce qui réduit l'albédo, ce qui augmente la température, ce qui fait fondre encore plus de glace. Ce réchauffement est fortement lié à l'effet de serre. La Terre émet des rayonnements dits infrarouges. En effet, tout corps de température non nulle émet un rayonnement dit infrarouge qui correspond à des températures précises. C'est alors la chaleur de la Terre qui implique l'émission de ces gaz à effet de serre. Les gaz qui composent l'atmosphère vont absorber une partie de ces rayonnements, de cette chaleur, qui va alors être bloquée à l'intérieur de l'atmosphère. Par la suite, cette chaleur est renvoyée par les gaz vers la Terre sous la forme des mêmes rayons infrarouges, ce qui implique un réchauffement continuel de la planète. L'effet de serre est en quelque sorte une partie de tennis de table continuelle, où la balle est remplacée par des rayonnements infrarouges, de la chaleur. Cette augmentation de la température entraîne la fonte de la glace continentale, comme celle du Groenland. Car contrairement à la banquise qui flotte sur l'eau et qui, quand elle fond, n'augmente pas le niveau de la mer, ces glaciers reposent sur la terre ferme. Quand ils fondent, l'eau issue de cette glace se déverse dans l'océan, ce qui contribue à l'élévation du niveau de la mer. Aujourd'hui, l'Académie nationale des sciences des États-Unis explique que chaque année, 500 milliards de tonnes de glace fondent du Groenland. Cela représente 2/3 du plus grand océan du monde déversé dans les eaux internationales. À savoir que l'océan Pacifique, qui représente presque la moitié de l'espace occupé par tous les océans. Il s'agit alors d'une quantité inimaginable et exceptionnelle. Les scientifiques estiment que cette fonte contribue aujourd'hui de manière importante à la montée du niveau des océans. Maintenant que l'on sait comment fonctionne la fonte des glaces au Groenland, et que cela implique une montée globale des eaux internationales, voyons comment NOAAM nous suggère de lutter face à cette fonte des glaces.
Merci Baptiste. Pour lutter contre la fonte des glaciers, une des solutions est la mise en place d'une politique de sanctuarisation. Cette politique de sanctuarisation consiste à protéger strictement certains espaces naturels afin de préserver la biodiversité et de limiter les activités humaines. Dans le podcast « Terres australes et antarctiques, la stratégie de la sanctuarisation » de France Culture, Anne Choquet, enseignante-chercheuse en droit, explique qu'en 1991 a été mise en place une politique de sanctuarisation par la France en Antarctique avec le traité sur l'Antarctique.
Et on a, en 1991, confirmé une volonté des États en faveur de la protection de l'environnement qui fait de l'Antarctique une réserve naturelle consacrée à la paix et à la science.
Ce traité fait de ce territoire une réserve naturelle consacrée à la paix et à la science. Cela signifie que toute activité militaire, nucléaire et l'exploitation minière sont interdites. Un autre exemple de sanctuarisation est le renforcement des normes environnementales mises en place par les accords de Paris et la convention d'Aarhus. Ces traités ont pour objectif de limiter l'augmentation de la température mondiale et donc la fonte des glaciers. Le gouvernement danois a été appelé à adopter la convention d'Aarhus pour protéger ses territoires, et notamment le Groenland. Sinon, une autre forme de solution est la mobilisation citoyenne. Par exemple, au Groenland, les habitants de Narsaq, village situé proche de la vallée de Qaanaarsuit, qui est visé par un projet d'exploitation minière, se sont mobilisés contre ce projet, en élisant un parti opposé à l'extraction minière. Ces initiatives ont pour but de limiter les actions d'extraction minière, au Groenland, et ainsi protéger l'environnement local. Elles ont également pour objectif de protéger ces territoires contre les effets du dérèglement climatique, tout en conservant leur rôle essentiel pour le climat. La sanctuarisation et la mobilisation citoyenne apparaissent donc comme de très bons outils de protection de l'environnement.
Pour finir, la fonte des glaciers aujourd'hui est un sujet très préoccupant. L'augmentation des températures entraîne une diminution de la masse de glace. Cela provoque la montée des eaux, mais perturbe aussi les écosystèmes et menace les réserves d'eau douce utilisées par les populations. Cette fonte crée des tensions autour des minerais rares attisés par les grandes puissances, comme les États-Unis. Elle permet d'ouvrir des voies maritimes, ce qui favorise leur accès. Face au réchauffement climatique, les scientifiques s'accordent sur le fait qu'il n'existe pas de solution miracle. Certaines zones ont été sanctuarisées, comme nous l'a dit NOAAM juste avant, avec la mise en place par les accords de Paris et la convention d'Aarhus. Il faut réduire les gaz à effet de serre, avec des énergies renouvelables, comme le soleil, et capter le dioxyde de carbone déjà présent dans l'atmosphère, puis le stocker sous terre, même si ce n'est pas encore très développé, d'après le GIEC et l'Agence internationale de l'énergie. Il y a d'autres solutions plus accessibles aux populations, comme diminuer l'utilisation de l'intelligence artificielle, qui consomme 30 fois plus qu'un moteur de recherche classique d'après le Figaro, ou alors limiter les déplacements de véhicules en utilisant le plus possible les transports en commun, acheter plus local.
Car c'est à nous aujourd'hui, avec des petites actions du quotidien, de réduire le CO2 pour aider notre planète. Mais peut-être que dans des années à venir, nous aurons d'autres solutions.